Didier.
Qui s'appelait en fait Eddie Bellegueule et qui a fui sa famille du Nord, qui est famille pauvre, raciste, sexiste, bah, et en fait, chez lui, en fait, il y a une sorte de répulsion de cette famille-là. Et en même temps, enfin, va, il est, y a ce lien quand même avec eux. Et donc, plus récemment, il a écrit un livre qui s'appelle Qui a tué mon père. Mmh. En fait, pour lui, c'est ça sert de base finalement sa famille pour être une critique sociologique de la société française actuelle et de la plonger dans la pauvreté d'une partie de la France actuelle. Un autre héritage un petit peu lourd, c'est on le retrouve chez Gérard Garouste, qui est un artiste contemporain, peintre, sculpteur, graveur, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Intranquille, où il revient en fait sur quelque chose qui l'a profondément bouleversé. C'est son père qui a été marchand de meubles et en fait qui a spolié des meubles chez des familles juives pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a cet héritage-là, en fait, et cette culpabilité qu'il a, en fait, par rapport à son père, qui ont bouleversé. Donc, ouais, il revient dessus dans le livre L'Intranquille. Pour parler de nazisme, en fait, aussi, l'un des livres qui m'a le plus bouleversé sur ce thème-là, et qui est sorti, en fait, à la rentrée littéraire, il me semble, en septembre 2019. C'est un livre d'un Allemand qui s'appelle Chris Krauss, qui en fait est un scénariste de télé allemande et qui a écrit un livre qui s'appelle La Fabrique des Salauds, où il revient sur l'histoire de son grand-père. Tout ça romancé. En fait, là, on suit l'histoire de deux frères qui ont une sœur d'adoption qui est juive et qui et dont tous les deux sont amoureux. Il y a une sorte de rivalité et en même temps d'amour fraternel entre les deux qui est assez troublant. Et en fait, il revient sur le personnage revient sur la mort de son grand-père donc en 1905. Qui est en fait le point de départ de toute cette saga familiale, où en fait son grand-père accidentellement, suite aux révoltes de 1905 des Russes, là on se trouve en Lettonie, en fait son grand-père, parce qu'il y a des révoltés qui piétinent en fait son verger alors qu'il est pasteur en Lettonie et du coup il va lancer ça va atterrir sur la tête d'une fille et en fait tout le monde va lui tomber dessus, va le noyer, ce qui donne en fait à toute la famille en fait sur plusieurs générations une sorte de haine des Russes et des bolcheviques qui est quelque chose de viscéral. Et donc ils vont par concours de circonstances tomber dans le nazisme et puis après à la fin de la guerre dans d'autres travers les services secrets en fait c'est vachement bien écrit, d'une part, et c'est une histoire terrible, et en même temps, c'est super bien écrit. Voilà. Dans quelque chose d'un peu plus léger, plus ou moins, On peut se retrouver en fait au Moyen Âge à travers Ken Follett, qui est vraiment un auteur qui traduit le mieux, je pense, l'univers du Moyen Âge. En fait, parce que il s'entoure de tout un collège de scientifiques ou de spécialistes en fait du Moyen Âge, ce qui fait que vraiment il nous offre un tableau du Moyen Âge qui est assez magnifique et très réaliste. Donc il a fait une trilogie. Moi j'ai lu que Les Piliers de la Terre, en fait le premier tome. Mmh. On suit une famille de bâtisseurs de cathédrales. Donc là, on suit la transmission, mais en fait la transmission de savoir. Là, en fait, et ce qui est une des choses les plus importantes en fait du Moyen Âge, à travers le compagnonnage. Je suis plus. Voilà. Donc en fait, on suit un père avec son fils, et en fait son fils va poursuivre le projet de son père de construire une cathédrale. Et en même temps, on suit en fait toutes les avancées et les reculs en fait dans la construction de cette cathédrale, à travers les intrigues politiques entre clergé et les seigneurs en fait de cette époque. Ça se passe en Angleterre et c'est super bien comme saga familiale, quoi. Un livre que j'ai lu il y a très longtemps, dont je me rappelle un petit peu, mais pas beaucoup, c'est 100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez, qui m'avait vachement marqué parce que Gabriel Garcia Marquez, il écrit super bien. Et alors là, en fait, on suit. Là, c'est encore aussi de la saga familiale, mais en fait, à travers vraiment une sorte de naissance, de développement d'une famille et puis de déclin, un côté un peu dégénérescence en fait, sur la fin du livre. Je me rappelle que tous les personnages s'appellent de la même façon, Aureliano Buendia. En fait, on suit ce colonel qui, dans un petit village de l'Amérique du Sud, là c'est un magnifique voyage en fait dans l'Amérique du Sud, dans la jungle d'Amérique du Sud. Au niveau de la transmission aussi et des héritages, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Le Théâtre des Merveilles de Louis Diac. Alors Louis Diac, en fait, c'est un chanteur catalan qui a pas mal chanté contre le franquisme dans les années 70 et qui a écrit ce livre que j'ai trouvé très tendre, très beau dans cette tendresse-là. Parce qu'en fait, on suit donc un frère et une sœur qui arrivent en 1936 à Barcelone et qui vont trouver comme hébergement les coulisses d'un théâtre cabaret à Barcelone. Et en fait, la fille va prendre part à la Révolution espagnole et va collectiviser le théâtre. C'est super bien écrit ce passage-là, en fait, de voir comment le patron du théâtre va se retrouver à passer le coup de balai comme les autres salariés, et comment chacun va arriver à accepter cette collectivisation en fait d'un lieu culturel. Franco gagne sur la Révolution espagnole, la fille est obligée de partir. Elle se retrouve dans un camp. Elle se retrouve dans le camp d'Argelès. Elle va donner naissance à un fils à travers un amour avec un tirailleur sénégalais qui surveille ce camp. Et la grosse partie en fait du livre, c'est l'histoire de ce fils qui vient des années après est devenu un chanteur lyrique et va retourner dans ce théâtre dont sa mère lui a tellement parlé et du coup c'est un... En fait là on est dans l'objet, le lieu, le théâtre est un membre de la famille, quoi. C'est vraiment un personnage, quoi. Et c'est vachement bien décrit. En fait, on voit que Louise Liac, il connaît tout l'aspect technique du spectacle, du théâtre. Donc, voilà, on est vraiment plongé dans l'histoire de ce théâtre-là. Alors, très récemment aussi, il y a Leïla Slimani qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le pays des autres, où elle revient sur l'histoire de sa grand-mère qui, qui était alsacienne et qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'est mariée avec un Marocain et est partie aller vivre au Maroc. Et en fait, elle raconte le décalage qu'il y a entre la jeune femme qui part d'Alsace et qui s'imagine dans sa tête ce que peut être le Maroc et ce qu'elle vit au quotidien. Et voilà. Donc, le long parcours en fait, de cette femme dans le fait de s'intégrer dans la population marocaine et ce qu'elle va apporter comme héritage plus tard. D'une façon plus tendre, dans côté héritage culturel et intégration, on a de Cavana l'héritage qui est son plus beau roman sur un roman autobiographique sur lui, son enfance de 6 ans à 16 ans. Il me semble... Ah non, on n'est pas à Belleville. On est à Mont-sur-Marne.
Oui.
Et on suit en fait des familles de Rital italiens dans les années 50-60. L'autre auteur aussi par rapport à cette histoire d'héritage qui me semblait intéressant, c'était Aki Shimazaki qui a écrit toute une série de romans qui s'appelle Le poids des secrets et entre autres qui a écrit dans cette série-là un livre qui s'appelle Tsubame où elle elle parle d'un tremblement de terre, en fait. Le point de départ, c'est un tremblement de terre en 1923 en Corée. Et d'une... qui va se retrouver arrachée de ses origines coréennes pour se retrouver adoptée par une famille japonaise. Et donc, qui va se trouver japonaise, elle aussi. Et des années, vraiment des décennies après, en fait, elle va découvrir le secret de sa naissance et de son enfance coréenne. Et avec toute l'image, en fait, métaphorique de l'hirondelle et de son nid, en fait, Aki Shimazaki nous parle du racisme envers les Coréens de la part des Japonais, de la transmission de la culture et du poids que peuvent avoir en fait certains secrets. Voilà. Et de la bonté de certaines personnes qui en fait dévoilent ces secrets-là. Après, on va revenir sur l'aspect plus sociologique et plus épreuve sociologique. J'ai parlé des effectivement, je pense que c'est un des personnages, un des écrivains importants à cette histoire-là. J'ai lu récemment aussi un livre de Lionel Duroy. Alors, Lionel Duroy, il a une histoire personnelle très particulière parce que il me semble qu'il est né d'une famille aristocratique désargentée, donc finalement assez pauvre, et il a écrit sur cette histoire, et ça lui a valu une sorte de bannissement. Et il a écrit récemment, nous étions faits pour vivre heureux, où il revient sur ce passage délicat au sein de sa famille à travers un repas familial et qui a des goûts de résilience, de pardon, mais en même temps où les gens reviennent sur les blessures qui ont pu être faites dans cette famille-là. Et en fait, c'est un seul chapitre et c'est écrit pour moi un peu comme une sorte de un seul long plan séquence qu'il y aurait dans le cinéma où en fait on voit la caméra qui déambule en fait à travers la table de ce repas de famille avec des gens en fait qui arrivent en voiture et qui en fait interviennent après dans le repas, d'autres qui partent, voilà. Et c'est assez chouette en fait cette façon d'écrire un roman. J'ai trouvé un aspect très cinématographique en fait dans ce livre. Un autre livre vachement intéressant sur où là en fait on a quelque chose de beaucoup plus tendre par rapport à ce passé familial, c'est de Gérard Mordillat, Vive la sociale, qui est en fait un roman autobiographique où il revient sur des personnages vraiment atypique dans sa famille. Il a entre autres un grand-père qui est joueur de cornet dans l'orchestre de Cirque Barnum, une grand-mère veuve de guerre, un père qui est ouvrier économiste. Et par rapport à Édouard Louis, en fait, qui a une sorte de répulsion en fait pour l'aspect un peu pauvre et beauf raciste en fait de sa famille. Là, Gérard Mordillat, une autre époque, c'est vraiment la famille de prolo parisien et avec quand même leur rêve de révolution, d'idéal anarchiste ou communiste. Et en fait, on sent qu'il y a eu une transmission chez Gérard Mordillat de tout cet aspect-là. Il y a une sorte de fierté, en fait, de pouvoir montrer l'héritage qu'il a, en fait, de tout ça.